Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Vous savez, qui aimerait obéir à Dieu? Eh bien, si déjà on a du mal à écouter une directive d'un homme, simplement qui vous dit « Allez faire un tour voir un voisin » et que vous n'avez pas envie de le faire, Dieu ne parlera pas. Ouh, ça commence bien. Regarde, ton voisin, il dit ici, on ne joue pas tic-tac. Regarde, on a dit ici, on ne chauffe pas les chaises. Et si on réchauffe les cœurs, et ici, on vide l'enfer pour peupler le ciel. Vous savez, lorsque votre vie est attaquée, il y a une chose qu'il faut absolument faire, c'est revoir les fondations. Vous assurer que vos fondements sont bibliques. Alors, on a commencé une série depuis maintenant une semaine qui, à mon humble avis, va vraiment nous aider à avoir une vie selon le cœur de Dieu. Et ce n'est pas une vie sans attaque, c'est une vie de victoire. Et il est impossible de devenir un David sans la présence d'un Goliath. La présence d'un Goliath dans ta vie sert à révéler le David que tu es. De Pierre 1,3 nous dit, par sa puissance, la puissance de Dieu, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Par la puissance de Dieu qui réside en toi et en moi ce soir, si nous sommes chrétiens, cette puissance contient tout ce qu'il faut pour vivre attaché à Jésus. Cela signifie donc que toi et moi, on ne peut pas tomber dans l'excusite. La maladie des chrétiens qui trouvent des excuses pour ne pas vivre puissamment attaché à Jésus. Sa puissance en moi me permet de vivre attaché à Jésus. Et dans l'évangile de Jean, Jésus dit, si tu es attaché au cep, si tu es attaché à moi, si tu restes, si tu demeures en moi, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en toi. Et il dit, dans Jean 15, lisez ça chez vous, dans Jean 15, il dit, et si vous restez attaché à moi, je paraphrase, vous réussirez dans votre mission, vous aurez du succès, vous ferez les choses selon mon cœur, vous glorifierez le Père. Et donc ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Tu vas être guéri de la maladie de l'excusite. Tu ne pourras plus dire « oui mais ». Le gros mot des Français, c'est « oui mais ». Dieu veut que tu fasses des choses extraordinaires. « Oui mais ». Ah mais Dieu dit ici qu'il t'a donné tout ce dont tu as besoin, toute sa puissance pour rester attaché au Seigneur. On a vu ensemble dans 1 Corinthiens 10, 13, c'est le genre de verset que j'aurais aimé que Dieu n'écrive pas. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Et ça signifie que tout ce que tu traverses, toutes les tentations, celles que tu as et celles que je peux avoir, tous, nous faisons face aux mêmes tentations. Mais il dit aussi d'ailleurs, Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quand il y a une tentation, cela signifie que tu as les forces nécessaires pour la vaincre. Montre-moi la profondeur et la hauteur de ta tentation, je te révélerai quelle est ta force. Plus ton attaque est grande, plus tu es fort dans l'esprit. Mais tu ne le sais pas tant que tu n'as pas surmonté attaque. Une parenthèse, le premier secret que j'ai appris dans ma vie chrétienne, en ce qui concerne les tempêtes, la première chose qu'il nous faille faire pour vaincre une tempête, c'est de vivre plus longtemps que la tempête. fou. Ce n'est pas en pleine tempête qu'il faut lâcher prise, c'est attendre qu'elle passe. David dit, psaume 23, « Alors que je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. » Il n'a pas dit « Alors que je m'arrête. » Ne t'arrête pas dans la vallée de l'ombre de la mort, traverse la vallée. Et ce soir, combien sont très très forts en physique, chimie, science ? Levez la main s'il vous plaît. 0,5 personnes. Ok. Pour avoir une ombre, il faut de la 20 sur 20. Quand David dit, alors que je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Pour que la mort ait une ombre, il faut que la lumière soit quelque part. Tu n'es jamais loin de sa lumière. Le diable te fait croire qu'il est plus grand que la lumière, mais s'il y a une ombre, c'est que ce n'est pas dans les ténèbres. Essaye de voir ton ombre quand il fait noir. Impossible. La bonne nouvelle, c'est que la lumière de Dieu resplendit sur nous en ce moment, et surtout quand la mort vient à nos côtés, son ombre est présente, mais la lumière est là. Alors Paul dit ici, d'ailleurs Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces au moment de la tentation. J'aime bien ça, au moment. Il ne dit pas avant et surtout pas après. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Il ne dit pas qu'il va enlever la tentation. J'aime Dieu. Il te la laisse bien en face de toi et dit maintenant tu la surmontes afin que tu aies l'autorité de dire aux autres comment la surmonter. Ce qui me qualifie, ce qui te qualifie pour être des sources d'encouragement et d'inspiration pour les autres, c'est les victoires que tu as eues toi-même devant le trône de Dieu. Les beaux discours, le monde, on n'en a plus besoin. Ce que les gens veulent, c'est du vrai. Ce que les gens veulent, c'est des hommes et des femmes qui ont réussi à vaincre dans le privé et que le Père récompense en public. Matthieu 6 qui dit « Quand tu pries dans le lieu secret, le Père qui te voit dans le secret te le rendra en public. » Il y a toujours une récompense publique pour celui qui gagne une victoire dans le privé. On a vu ensemble dans Jean 10 et Jean 8 comment Jésus explique qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance et que le diable vient pour détruire, voler. Et on a commencé à parler la semaine dernière de cette image-là de crise cardiaque spirituelle. Tout le monde se souvient ? On a vu ensemble qu'il arrive malheureusement dans la vie d'un chrétien d'être attaqué par l'ennemi et parfois nous sommes en train de subir une crise cardiaque spirituelle, mais comme vous et moi, nous sommes incapables de discerner les signes avant-coureurs, les signes qui annoncent ou qui révèlent que c'est une crise cardiaque, on peut mourir parce qu'on a ignoré les symptômes et les signes. Et que notre rôle de pasteur en ce moment est de vous équiper, de vous encourager à reconnaître les signes. Et j'espère que vous irez voir d'autres personnes, d'autres frères, d'autres chrétiens qui ont baissé les bras en leur disant « Je sais comment nous en sortir. » Parce que bien sûr que les messages vont poursuivre en vous montrant comment faire pour ne plus jamais tomber sous les feux de l'ennemi. Commettre une erreur, ça arrive. Commettre un péché, malheureusement, ça arrive. Mais mourir sous les feux ennemis, non. Pas dans l'Église de Christ. Donc on a vu ensemble que le premier signe, qui se souvient du premier signe qui nous montre, qui nous révèle que nous sommes en train de subir une attaque spirituelle ou que nous sommes sur le point de vivre une crise cardiaque spirituelle? Quel est le premier signe? La perte d'un désir pour les choses de Dieu et pour son cœur. La perte d'un désir, on a vu ensemble, psaume 63, comment David était passionné pour la présence de Dieu. On avait vu ensemble... Je me souviens bien, j'ai posé une question très simple et je vous ai demandé si vous comprenez, si vous sentez que vous trouvez plus de force, plus de puissance, plus d'énergie, plus de joie, plus de paix, plus d'encouragement dans plein d'autres choses autres que la présence de Dieu, c'est que votre désir pour Dieu a déjà commencé à disparaître. Parce qu'on a vu ensemble que la source de notre vie, c'est Dieu. Après, il y a la famille, le sport, le fun, le bon didine, comme dirait Pasteur Steve. Ça, c'est après tout ça. La première source de puissance, c'est la présence de Dieu. On a vu ensemble la deuxième chose qui était un principe fondamental de notre vie chrétienne. On a parlé de la fatigue émotionnelle et physique. Vous vous souvenez de ça? On a pris l'exemple d'Élie qui a pris une grande victoire, était fatigué, était allé dormir, il était sur le point de mourir, il voulait mourir. Il a fait une prière en disant « Seigneur, tue-moi, prends ma vie. » Et un ange arrive et un ange le réveille. Et un ange lui fait à manger et il mange et il se rendort. Et je me souviens avoir pensé comme ça, et je pense encore aujourd'hui, si un ange me réveille et fait à manger pour moi, je ne me rendors pas. Je dis « Parle un peu avec moi, s'il te plaît. Qui tu es? D'où viens-tu? Que fais-tu? Combien tu mesures? Tu étais où avant? Tu étais qui avant moi ?» Parce qu'il est immortel, l'ange, hein? Il est éternel. Enfin, immortel en tout cas. Éternel. Il a un commencement, mais il n'a pas de fin. En tout cas, pour l'instant. Vous savez, les démons ne meurent pas. Mais les gens qu'ils possèdent, oui. Lorsqu'un démon n'a plus un corps pour faire ce qu'il a à faire, il cherche un nouveau corps. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des principautés qui, chaque siècle, attaquent des nations, des villes, des familles, des pays. Et ils se sont entraînés durant des milliers d'années pour nous massacrer. Et à chaque génération, Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour empêcher qu'ils réalisent leur plan. Et vous êtes cette génération pour cette génération. Et autant que le diable cherche des corps pour manifester sa volonté, autant Dieu cherche des corps pour manifester sa volonté. On a vu qu'Élie devait manger. Tout le monde dit manger. Manger, se nourrir pour avoir de la force. Et je me souviens vous avoir encouragé, et sort de la même chose, faisons attention à notre style de vie. Essayons d'être sages, pas de religion, pas de sectarisme. Non, allons manger ce qui nourrit notre corps de la bonne façon. Si nous voulons aller loin, mettons le bon fuel à l'intérieur. Ça vous va? Donc vous verrez les points chez vous, mais c'est important de comprendre que notre corps transporte le Saint-Esprit. Mais si mon corps reste sur un lit pendant 3 mois, le Saint-Esprit n'ira nulle part. Et si tous les chrétiens que nous sommes restent allongés tous les jours sur le lit, nous ne gagnerons pas le monde. Je vais plus loin. Je me souviens de ce message du pasteur de l'évangéliste Reinhard Bonnke. Qui connaît Reinhard Bonnke? Reinhard Bonnke, homme de Dieu, vous ne connaissez pas? Allez le voir. Reinhard Bonnke, c'est un Allemand. Reinhard Bonnke est un homme de Dieu extraordinaire. Il arrive en Australie et il prêche dans un stade rempli de chrétiens. Et juste avant son arrivée, les chrétiens avaient mis en place une chaîne de prières depuis plusieurs mois. Et il a dit, mes amis, je vous aime et merci pour la prière. Et il dit, mais vous pouvez prier toute votre vie pendant 3 heures par jour. Malgré vos prières, l'Australie ne sera jamais gagnée par Jésus, par la prière seulement. Il dit, il y a un temps où il faut quitter sa chambre de prière et aller évangéliser, parler de Jésus. Ton corps transporte la présence de Dieu. Mais si nous les chrétiens, nous passons notre vie tous les jours enfermés dans une chambre à prier pour ceux qu'on aime et qu'on n'a pas le temps de les aimer, ils ne pourront jamais donner leur cœur à Jésus. Et je vous me défie, chers amis, de me montrer dans la vie de Jésus-Christ Christ qui priait tous les jours de 8h du matin à 8h du soir. Vous ne verrez pas cela chez Christ. Il priait ou bien très tôt le matin, ou bien durant la nuit, mais la journée, il était avec les gens. Et ce qu'il recevait dans la présence de son Père, il l'amenait dans la présence du peuple. Ce que tu reçois dans la présence de Dieu tôt le matin, tu l'amènes dans la vie de ton épouse, de tes enfants. Et c'est comme ça que tu apprends à transporter la présence de Dieu. C'est pour cela que tu dois choisir d'être en bonne santé. Et si on est malade ou si on souffre, on prie pour vous et Dieu va vous guérir. Mais je vous garantis, je vous promets une chose, je suis quasiment sûr à 3 milliards de pourcents. 90% des maladies que nous avons sont liées à deux grandes sources principales. Premièrement, le stress. Deuxièmement, le manque d'eau. Ah oui, beaucoup de gens boivent très peu d'eau. Mettez-vous à boire de l'eau je parle, hein. Pas du coca, de l'eau. Prenez de l'eau, buvez de l'eau, au moins 1,5 litre par jour, mangez sainement, reposez-vous bien, et pendant un mois faites ça. Mettez-vous à faire du sport, à marcher, faire du vélo, et je vous garantis qu'en moins d'un mois et demi, deux mois, votre corps a commencé à changer. Et ce qui vous fait souffrir avant, vous faites de moins en moins souffrir. Sauf si c'est une pathologie ou une maladie différente. Je vous parle, c'est le genre de maladies qui reviennent, sinus, mal de tête, mal de dos, tout ça. C'est relié à notre alimentation, à notre vie sportive, à notre vie physique. Je vous encourage à aller voir un médecin. Je suis pour les médecins. Demandez-lui des conseils et mettez-vous au sport. Et vous pourrez alors, à votre tour, transporter sa présence très loin. Ok, c'était ça un résumé simplement. Là, je commence. Oula, ça va être compliqué de finir tous ces points-là en 14 minutes. Tout le monde dit, Seigneur, aide le pasteur. Et nous avec. Le troisième signe ce soir. Troisième signe qui peut vous révéler que vous êtes la cible d'une attaque spirituelle. C'est lorsque le manque règne en maître. Le manque. Je ne vous parle pas d'un moment où tu as un creux dans le mois, où tu as un mois, où tu as un salaire moins élevé. Où je te parle de lorsque tu sais que pendant des semaines et des mois, tout ce que tu as disparaît. C'est comme si tu gagnes de l'argent, mais tu n'en gagnes pas. C'est comme si les portes se ferment. Tu fais tout ce que tu as à faire, tu es fidèle, tu pries, tu cherches, tu travailles dur. Et toutes les portes se ferment les unes après les autres. Ce n'est pas normal. Ça peut être de temps en temps Dieu qui t'emmène dans une autre direction, mais cela c'est en dernier recours après t'avoir parlé plusieurs fois. Mais en général, c'est le diable qui va tout faire pour t'étouffer. Et il fait cela parce qu'il veut que tu enlèves tes yeux de la source. Ne répondez pas à haute voix, mais à la plupart des chrétiens que j'ai rencontrés, dès qu'il y a un problème d'argent, on va chercher une solution par notre propre moyen. Et tout d'un coup, Dieu n'est plus la source. C'est un ami qui nous prête de l'argent, c'est une banque, c'est un nouveau patron, c'est un collègue de travail, c'est je ne sais pas c'est quoi, mais ce n'est pas Dieu. Et au lieu de chercher Dieu et de maintenir le cap et de continuer à faire ce que nous faisons, dès qu'il y a un problème, nous allons taper à toutes les portes. Et le diable fait ça pour changer notre regard et il veut que la source qui était Dieu n'est plus Dieu. Je vous garantis que j'ai vu ça plusieurs fois. S'il parvient à te faire vivre une vie d'inquiétude, alors il parviendra à vivre dans la quiétude. Si le diable est capable de te faire oublier qui est Dieu, alors tu ne sauras plus qui tu es. Si le manque règne en maître dans ta vie en ce moment, je parle de manque, alors il faut que tu t'asseyes. Tu vérifies ce que tu possèdes, ce que tu as. Tu vérifies tes talents, tes dons. Mais surtout, tu vérifies ta confiance en Dieu et ta fidélité. S'il vous plaît, notez ce qui suit. Dieu ne récompense pas les talents, il récompense la fidélité. Il y a des gens qui sont moins talentueux que d'autres et qui réussissent plus que d'autres. Mais quand tu es fidèle, tu multiplies forcément tes talents. Laissez-moi vous dire une chose extrêmement importante, mes amis. Il y a une différence énorme entre la fidélité et la constance. La fidélité et la constance. Qu'est-ce que la constance ? La constance, c'est venir dimanche après dimanche ou vendredi après vendredi. La constance, c'est de faire toujours les mêmes choses tout le temps. C'est bien. C'est super bien, mais ce n'est pas de la fidélité. La fidélité implique toujours la multiplication. Quand tu es fidèle, tu multiplies. Le maître donne un talent à une personne, deux talents à l'autre, cinq au troisième. Le premier qui a reçu un talent, combien de talents il a ramené ? Un talent. Est-ce qu'il a été fidèle ? On donne un talent, il ramène un talent. Est-ce qu'il a été fidèle ? Non, il a été constant. Mais ceux qui avaient deux talents et cinq talents, celui qui a reçu deux talents en a ramené deux, il avait quatre talents à la fin, et celui qui en avait cinq en a ramené dix, il avait à la fin dix talents. Jésus lui dit, tu es un fidèle serviteur. La fidélité, si vous voulez la mesurer, mesurez-la toujours en fonction de deux paramètres. Oui, il faut être constant, mais il faut multiplier ce que tu as. Donc, quand il y a un manque quelque part, c'est parce que le diable sait qu'il peut nous attaquer sur un domaine de notre vie, quelque part, ce n'est pas pour être jugé, non, c'est quelque part, on n'a pas été fidèle. Au lieu de se morfondre et de pleurer, de se couper, on s'assoit et on dit, Seigneur, montre-moi où est-ce que je n'ai pas été fidèle. Dans ma vie, par exemple, plusieurs fois, dès l'instant où j'ai cessé de lire ma Bible, où j'ai cessé de prier avec passion, avec zèle, j'ai senti de suite le manque arriver. Manque de joie, manque d'énergie, manque d'onction, manque d'autorité. Manque. C'est comme si mon compte était une passoire. Mon salaire arrivait, il atterrissait et décollait tout de suite. Mon compte était un transit. Ce n'est pas normal, Seigneur, ce n'est pas normal. Et Dieu m'a rappelé, attention, est-ce que tu es fidèle ? Constant, oui, mais multiplie ce que tu as. Vous savez, j'ai appris dans ma jeune vie de chrétien que si l'offrande que je donne à Dieu, ma dîme, mon offrande, ma générosité envers Dieu, si ce n'est pas un principe, alors quand tout va mal et quand je suis en manque, je cesserai de donner à Dieu. Et quand je fais ça, non seulement je ne suis plus constant, je deviens infidèle. Ce qu'il faut faire, c'est choisir de donner à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et traverser la vallée de l'ombre de la mort, traverser les moments difficiles avec ce principe en disant je vais être fidèle, je vais donner selon ce que Dieu me donne, je vais redistribuer selon ce que Dieu me donne, pas sous pression humaine, pas comme les sectes font, entre vous et Dieu, être généreux envers Dieu, sa maison, les pauvres, ce que vous voulez, mais vous devez choisir d'avoir un principe fondamental dans votre vie. Sinon, le diable va dire, oh, tu donnes quand tu as, ok, on m'enlève. En faisant ça, il affecte la mission de Christ sur terre. Lorsque le manque règne en maître, assieds-toi avec ton épouse. Lui, chérie, écoute, est-ce que toi ou moi, on n'a pas été fidèle envers Dieu quelque part ? Dans les relations, dans la prière, dans les finances, c'est à vous de savoir entre vous et Dieu. Et vous faites comme moi, vous repentez, vous pleurez un bon coup. Seigneur, pardon. Et vous revenez vers la base, la fondation, et vous remettez en pratique, et vous verrez les fruits. Ce soir, je vous donne des conseils simples, mais si vous les pratiquez, vous ne serez plus jamais dans le trou. Quatrième signe ce soir, qui est lié à tout ce que je viens de partager, mais c'est important, quand ma vie de prière est faible, quand ma vie de prière est faible ou inexistante, c'est un point important. Comment savoir si tu es la cible d'une attaque spirituelle ? C'est très très simple. Regarde ta vie de prière. Le premier point, c'était soif des choses de Dieu. Mais là, on parle de communion avec Dieu, de la prière. Pas simplement de faire son œuvre. Je parle de la prière, d'intimité. C'est comme dans un couple, sans lever la main, il arrive dans les mariages que l'intimité soit moins profonde aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Par la grâce de Dieu, elle peut être meilleure demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que l'intimité est vivante. L'intimité est vivante. La prière n'est pas une discipline. Un jour, j'ai dit à un chrétien, il me dit, oui, j'en ai marre, le diable m'attaque tout le temps, c'est trop dur. Je dis, est-ce que tu pries ? Ah non, je n'ai pas le don de prière. Le don de prier ? Mais claque-toi deux, trois fois s'il faut. Il n'y a pas de don de prière. C'est un choix. Ah bon ? Ah bon, je crois que c'est un don, moi. C'est pas, tu viens, de quelle église tu viens ? Elle dit, je viens de l'église. Tic ! Donc, vous ne saurez pas. Je viens de l'église. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont enseigné, mais c'est n'importe quoi. La prière n'est pas un don, la prière est un choix. Communier avec Dieu. Écoutez bien ça, Matthieu 26, 40-41. Ensuite, il revint vers les disciples et les trouva endormis. Moi, j'imagine la scène. Vous êtes amis, que dis-je, dans le ministère de Christ. Christ, hein, qui marche sur l'eau. Avant-hier, il a marché sur l'eau. Ce matin, il a nourri 25 000 personnes. Et vous dites, on va prier ? Ouais. Moi, quand je lis ça, je suis encouragé. Je me dis, les disciples, c'est des gars cool, ce moment. Et il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi ? Et il dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est de bonne volonté. La nature humaine est bien faible. Vous savez, j'ai toujours dit, mais ok, montre-moi des signes, Seigneur. Et vous lirez chez vous, mais dans les passages qui suivent, c'est l'histoire. Ils arrivent dans le jardin et Jésus se lève après la prière. Il dit, on va se lever car mon heure est arrivée. Et une armée, une légion de Romains viennent arrêter Jésus. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre ? Il prend son épée et il tranche. Il voulait trancher la tête du gars, il a raté, et il a tranché l'oreille de Malchus. Et Jésus, qui aime tellement son ami, qui ne veut pas que Pierre aille en prison pour rien, guérit l'oreille de Malchus. Et là, j'ai compris. Écoutez bien cela. Si Pierre avait veillé avec Christ, il n'aurait pas réagi dans la chair. Il aurait réagi dans l'esprit. Je vous garantis qu'à chaque fois que vous sentez la chair, comme on dit, vous savez, ce gars-là que tu veux tuer, qui se réveille, quelqu'un te fait une queue de poisson, tu as envie de l'étrangler. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est ta nature humaine qui est faible. Pourquoi ? C'est peut-être connecté à un manque de communion avec Dieu. Et quand tu ne veilles pas suffisamment avec Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Ta nature humaine prend le dessus. Tu ne peux pas tenir les choses selon Dieu. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu réagis comme Pierre dans la chair. Et tu es, écoutez bien ça, hein ? Et tu vas essayer de résoudre les problèmes de Dieu à ta façon. Et quand on essaye de défendre Christ à sa façon, on est dans la chair et on blesse les autres. Écoutez bien cela. On leur coupe l'oreille, leur donnant toute envie d'entendre ce que Dieu a vraiment à dire. Mais Jésus va avoir le réflexe de guérir son oreille. Tout ça, c'est très profond. Quand je ne veille pas à côté de Christ, j'aurai tendance à gérer les choses de Dieu dans la chair. Et sans le vouloir, je vais couper l'oreille de ceux qui m'écoutent. Et ils ne pourront plus entendre ce que Dieu veut vraiment dire. C'est pour cela que si mon style de vie ne reflète pas Christ, quand je commence à leur parler de Jésus, ils veulent fuir. Et ils me disent, tu es un hypocrite, tu ne vis pas ce que tu prêches, et blablabla, blablabla. Mais si on vient rempli de l'Esprit et qu'on se met à faire les choses selon Dieu, Romains 8, 14 nous dit que les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Dans Actes 16, 17, la parole de Dieu nous dit, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, » je vais revenir sur ce passage-là dans les semaines qui viennent, « mais une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. » Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Mes amis, Relisez le début du passage, verset 16. « Comme nous allions au lieu de prière un esprit de python. » Quand nous allions au lieu de prière un esprit de python. À chaque fois que tu vas décider de prier, tu peux être sûr que tout va aller de travers. Vous avez déjà vécu ça ? Le chat mange le poisson rouge, le chien mange le chat. Tout va à travers. Ta femme s'est mal réveillée. Toi, tu es parfait comme tous les jours, mais ta femme... Tu vas aller prier. T'es parfait, tu vas aller prier. T'es encore plus que parfait. Tes enfants t'appellent pour... Et tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a toujours un esprit de python qui va tout faire pour t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et on verra très bientôt comment Paul s'y est pris et comment vous et moi pouvons nous y prendre pour détruire cet esprit-là. Et vous aurez compris, je pense, ce mois-ci, dans les semaines qui viennent, comment vivre une vie victorieuse. Et ma prière de pasteur, c'est que vous puissiez vous voir en face en disant, je suis un chrétien, je suis un homme fort, une femme forte en Dieu, avec mes défauts, mais je vais de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je vais conclure avec ce principe fondamental quand je parle de la prière. Vous savez, lire la parole de Dieu, c'est inspirer le souffle de Dieu. C'est inspirer son cœur. Si vous lisez avec moi dans Psaume 33, verset 6, la Bible dit « L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. » Je vais t'encourager ce soir à changer ta façon de voir lire la Bible. Quand tu lis la Bible, tu inspires le souffle de Dieu. Puisque c'est par son souffle qu'il crée. C'est par sa parole qu'il crée. Écoutez bien ça, c'est extrêmement important. Le thème s'appelle « Respire ». Insuffle sa parole. Mais quand tu pries, tu expires sa parole. Si tu veux prier, qui aimerait avoir 100% de réussite à sa prière ? Ce n'est pas une fausse pub, hein. Qui aimerait avoir 100% de réussite à sa prière ? C'est très simple. Pas facile. Simple. 1 Jean 5, 14, 15. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Si je prie selon la parole de Dieu, sa volonté, tout ce que je demande, je l'aurai. Donc, si tu veux respirer selon Dieu, inspire sa volonté, c'est-à-dire sa parole. Découvre ce que Dieu est, ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, comment Dieu fonctionne, son caractère, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Inspire sa parole, lis ta parole, lis la parole. Et quand tu pries, expire sa volonté, prie sa volonté, déclare sa volonté, prie ce que Dieu te donne dans sa parole. Et je te garantis qu'au fur et à mesure, tout ce que tu pries commence à avoir lieu. Et bien entendu, vous et moi, nous avons cette tendance, et moi je suis coupable de cela, de prier de façon tellement égocentrique et égoïste. Je veux ça. Depuis des mois, je n'ai plus jamais prié en disant « Seigneur, je veux une PlayStation. » Fais un miracle, une PlayStation. C'est pas un miracle ça. Wow. C'est un cadeau, fais-toi plaisir, c'est super, mais c'est pas un miracle. Je prie pour que des hommes et des femmes découvrent la volonté de Dieu. Ça, c'est un miracle. Je prie pour que le sang de l'agneau lave notre conscience qui parfois est souillée. Je prie pour que vous soyez protégés par la puissance de Dieu. Je prie pour que les anges campent autour de vous. Je prie continuellement la volonté. Et quand je prie, j'ai toujours ma Bible devant mes yeux et je prie des versets bibliques. Je ne peux pas prier mon opinion. Prier mon opinion, c'est augmenter la confusion. Mais quand tu pries, la parole de Dieu. Alors, le problème des chrétiens, c'est que nous ne voulons pas trop lire la parole de Dieu. Et du coup, quand on prie, on ne sait pas quoi prier. Et très vite, on ne respire plus. Et si vous allez voir, pendant un quart d'heure, ne faites qu'inspirer. N'expirez plus rien. Tu vas imploser. Ou fais l'inverse, expire, sans plus jamais inspirer après. Enterrement de ce soir. Mais dans l'esprit, on ne se rend pas compte qu'on est presque comme des morts vivants, on n'a pas de puissance et de vie qui se dégage parce que on n'est pas aligné avec sa parole. Je ne parle pas de devenir des experts, d'accord, et des pros, et de pinailler sur un verset ceci. Non, je vous parle de... La Bible est une invitation à découvrir Dieu. Si la Bible ne te pousse pas dans la présence de Dieu, c'est que tu as lu un livre religieux. Mais si la Bible t'invite à découvrir le Dieu qui a écrit la Bible, alors la Bible est exactement ce que Dieu veut qu'elle soit. Je vais vous choquer, et pour ça, je vais peut-être me faire incendier, c'est pas grave. La Bible n'est pas Dieu. La parole de Dieu, Christ, est Dieu. Mais le livre de la Bible ne peut pas contenir tout ce que Dieu est. La Bible est une invitation, un message écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit pour vous donner, à vous et à moi, nous donner le désir et l'envie de connaître le cœur de Dieu. Mais la Bible ne peut pas résumer Dieu seul. Parce que Dieu est plus grand que son livre. Ça ne veut pas dire que la Bible n'est pas un livre divin, c'est le livre par excellence, le livre de Dieu. Il faut prendre ce livre avec beaucoup de sérieux, mais Dieu est plus grand que la Bible. Et il a écrit de manière à ce que vous et moi, nous puissions comprendre un peu son caractère. Mais il nous faudra l'éternité pour le comprendre. Calcul, tu vas voir. L'éternité. Tout ça pour vous dire que si tu commences à lire ta Bible en disant « Seigneur, inspire-moi. Je veux inspirer ton souffle qui crée. Je veux inspirer ce que tu penses. Je veux me remplir de ce que tu penses. Et quand je vais me mettre à prier, je vais prier ce que tu veux. » Et là, je vous promets que votre atmosphère change chez vous. Que votre vie change. Parce que votre vie de prière devient forte, pas religieuse, forte, réelle, puissante, profonde, intéressante. Et le rôle du diable ce soir est de t'empêcher de prier. Le chrétien qui ne prie pas ou qui prie moins, qui a une vie de prière fragile, il ne respire pas normalement. Il ne respire pas normalement. Et en ce moment, j'ai sur le cœur de vous encourager à réfléchir à la parole de Dieu. Ce n'est pas des soirées où j'ai envie, si je m'écoute parler là, je prie pour tout le monde, je prophétise, j'ai envie de le faire, mais je me rends compte qu'en ce moment, pour ma saison à moi, Dieu veut qu'on enseigne et que la maturité atteigne notre vie de chrétien et que nous mettions de côté tout ce qu'il faut mettre de côté et qu'on change de vie, pas de façon mystique ou religieuse, qu'on reste rempli de vie, mais que nous vivions une vie qui plaise à Dieu.